Deixa que a Pico Dano, que vem rápida, ela pouco do cristianismo apliqué. L'un de ceux qui a le plus parlé des aspects pratiques de la vie chrétienne. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit bien de Jacques et de la lettre qui porte son nom. Lettre controversée. Lettre que Martin Luther appréciait guère, car il pensait qu'elle contredisait la doctrine fondamentale, la doctrine biblique fondamentale, de la justification par la foi. Or, bien comprise, cette lettre de Jacques ne la contredit pas. Elle ne contredit pas l'affirmation que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Je dirais, elle la complète. Elle la complète sur le plan pratique, car elle enseigne finalement la juste attitude chrétienne que nous devons avoir dans le monde. C'est une vie chrétienne qui se voit nécessairement par notre comportement, par nos œuvres, c'est-à-dire par nos paroles, par nos actes quotidiens. En gros, c'est une lettre qui nous dit qu'il ne suffit pas de parler de la foi chrétienne, il faut encore la vivre. Il faut surtout la vivre, la manifester concrètement dans nos vies, par nos œuvres, c'était Jacques, nos œuvres. Comme Jésus qui disait qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et que c'est à leurs fruits que ses disciples seront connus. Ou encore comme Jean-Baptiste qui demandait à ceux qui venaient se faire baptiser de produire des fruits dignes de la repentance. Ou encore comme l'apôtre Paul qui devant le roi Agrippa parlait de son ministère et il disait avoir prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Bref, toutes ces citations finalement nous disent une vie visiblement transformée, véritablement transformée, une vie visible, une vie chrétienne visible, est la plus grande preuve de la réalité de notre foi. Et ces paroles que nous venons de citer, juste quelques-unes, n'est-ce pas, confortent donc le propos de Jacques dans sa lettre, tout simplement. Il le dit d'une manière particulière, mais il ne dit rien de nouveau, finalement. Et les fruits ou les œuvres pratiques que Jacques nous conseille dans sa lettre tournent autour de ce que le chrétien est, de ce qu'il a, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit et de ce qu'il éprouve. Par exemple, il dit qu'un chrétien doit avoir un comportement sociétal en prenant d'actes justes. Et ici, par exemple, les problèmes du favoritisme sont des plus. Ne pas faire de favoritisme entre les personnes, avoir des égards envers ceux qui sont riches et bien habillés, et mépriser les autres, les pauvres, qui n'ont pas de moyens. Et puis c'est inacceptable, c'est un péché, mais il n'y a rien de faux. Toute la Bible est là pour nous le dire. Le chrétien doit pouvoir aussi contrôler sa langue, dit-il, ses paroles, ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, ses désirs impurs. Il doit avoir la patience envers les autres. La prière et l'encouragement, la prière pour les autres et l'encouragement mutuel doivent caractériser sa vie. Et beaucoup d'autres choses que vous pouvez lire cet après-midi chez vous aussi. Vous voyez lire cette lettre qui n'a que 5 chapitres. Bref, nous avons dans cette lettre un véritable guide pratique de vie chrétienne qui touche à plusieurs domaines concrets de notre foi chrétienne. Et je dirais que ça vaut la peine d'étudier cette lettre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est pour notre édification, pour notre réflexion. Alors ce matin, je vous propose de lire juste le premier verset. Dans lequel l'auteur se présente au destinataire de sa lettre et les salue. Il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Avant de commencer par l'auteur, je préfère commencer par les destinataires. Les 12 tribus dispersées. Vous savez qu'il s'agit là d'une expression biblique qui apparaît dans plusieurs autres textes, dans d'autres passages de la Bible, pour faire référence au sentiment des Israélites. En fait, on sait que l'Église des débuts, telle qu'elle apparaît juste au milieu des Actes des Apôtres, au chapitre 11, même au chapitre 13, encore, n'était composée que de Juifs. Des Juifs qui avaient accepté Jésus comme le Messie promis par les Écritures, annoncé et promis par les Écritures. Et cette lettre est donc adressée à des chrétiens d'origine juive du 1er siècle qui avaient fait partie sans doute auparavant de la grande église de Jérusalem, la première église, mais qui avait été dispersée en dehors du territoire d'Israël, dans des régions où la population était mélangée, était cosmopolite. Rome, Alexandrie, Chypre, des villes, dans diverses villes de Grèce, d'Asie mineure, un peu partout. Et en lisant cette lettre, on voit que Jacques se fait des soucis pour ces chrétiens. Il leur écrit pour donner, certes, quelques orientations, c'est souvent le cas de toutes les lettres du Nouveau Testament, n'est-ce pas ? Les encourager devant les difficultés et les oppositions auxquelles ils devaient faire face, auxquelles ils faisaient face. Mais je dis aussi pour effectuer les premiers redressements, notamment pour dénoncer le comportement de certains d'entre eux, tant dans leur relation entre eux qu'avec les non-chrétiens. En fait, en employant un langage énergique, éloquent, et je dirais très terre à terre, hein, avec des images frappantes, je vais vous donner un ou deux exemples. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en Bible, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des yeux du monde. Un autre exemple, je vais vous laisser après lui la lettre à la maison. Regardez comment il s'adresse à lui. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et ainsi de suite pour beaucoup d'autres sujets, je dirais très concrets. En comparant les informations que nous donne cette lettre, on voit qu'elle a été écrite avant le Concile de Jérusalem, le fameux Concile de Jérusalem, date du chapitre 15, n'est-ce pas, ce premier grand concile qui a déterminé le rôle de la loi de Moïse pour les chrétiens non juifs, pour les chrétiens issus du paganisme, n'est-ce pas, concile qui a eu lieu très probablement en 49 après Jésus-Christ. Or, comme il est question dans cette lettre de chrétiens juifs dispersés, cela nous amène à supposer que ce fut après le martyr d'Étienne, en chapitre 7, le martyr d'Étienne, le diacre d'Étienne, et après la persécution qui s'en est suivie, ou alors lors d'une situation pénible, une situation de détresse économique. Car au chapitre 2, verset 15, déjà au chapitre 1, il fait référence aux épreuves qu'il vivait, mais au chapitre 2, verset 15, il fait référence à des frères et sœurs qui manquent de nourriture et d'habits. On sait qu'en 46, il y a eu une famine. Tout cela donc nous amène à penser à cette Cela veut dire que nous sommes là devant le premier écrit chrétien du Nouveau Testament, devant les écritures de tout le reste. C'est probablement des actes qui sont difficiles à dire concrètement, mais c'est à peu près ça. Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La première question que l'on se pose est celle-ci, de quel Jacques s'agit-il? De quel Jacques s'agit-il? Car on sait que dans le Nouveau Testament, il y en a trois, probablement quatre Jacques qui sont cités dans le Nouveau Testament. Jacques, fils Zébédée, frère de l'apôtre Jean, qui a été décapité sous Hérode, vous pouvez le voir dans chapitre 12, verset 2. Jacques, fils d'Alphée, l'un des douze aussi. Jacques, appelé donc Jacques le mineur, appelé sa fille bataille. Jacques, le père de l'apôtre Jude. Et Jacques, le frère de Jésus. De quel Jacques s'agit-il alors? Quel Jacques a écrit cette lettre? Et on peut peut-être très rapidement voir quelques textes qui font référence à ces Jacques. Marc chapitre 3. Voici les douze qu'il établit. Simon qui l'appela Pierre, Jacques fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès qui signifie fils de tonnerre. Et c'est plusieurs autres. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils de Matthieu. Thaddée, Simon, le Zélote, et Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Simon, le Zélote, et Judas. Fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes de Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous venons d'une tradition qui nous dit, et toujours, n'est-ce pas, Marie n'a pas été comprendre que Jésus était le seul fils de Joseph et de Marie. Les textes nous disent qu'il ne nous semble pas du tout aller dans ce sens-là. Et on pourrait encore dire, même si on n'est pas là aujourd'hui pour faire une étude biblique, peut-être encore quelques versets. Ça, c'est dans les évangiles. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Vous voyez, votre texte qui montre bien que Jésus faisait partie d'une famille, il y avait des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. Il était le premier. Voilà. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il demeurait là-bas quelques jours. On s'est entendu que c'était des cousins. Je crois que le texte ne laisse pas de dire. Il y a un mot pour les cousins, il y a un mot pour les frères. Hein, on sait donc que par cet texte biblique et d'autres, effectivement, Jésus faisait partie de la famille, il avait des frères et des sœurs, qui d'ailleurs, quand on lit les textes, on voit bien que pendant que Jésus était sur la terre, ils n'ont pas du tout cru à leur frère, à Jésus-Christ, à notre sauveur. En tout cas, avant sa résurrection. Et donc, Jacques était parmi les incrédules, non? Et sans doute qu'ils croyaient en Jésus. Un frère qui troublait la famille avec ces histoires-là de Messie, etc. N'est-ce pas? Et donc, ils se sont dit, ils gênent vraiment terriblement leur famille, quoi. Mais après la résurrection de Jésus, quand on lit le texte, on voit que Jacques est là, parmi ceux qui prient. et pas simplement Jacques, n'est-ce pas? On voit donc les frères de Jésus se joindre aux apôtres et aux autres disciples. Or, parmi ces disciples, il y en avait un qui s'appelait Jacques et qui est devenu donc dirigeant de la grande église de Jérusalem. Et les textes nous montrent que c'était un homme, il s'agissait d'un homme d'une grande autorité spirituelle au sein de l'église, qui était même regardé comme colonne de l'église. Il y a l'apôtre Paul le cite comme colonne de l'église, ensemble avec Pierre et Jean. D'ailleurs, je suis un peu perdu là dans les textes. Dans Galates chapitre 1, verset 19, quand l'apôtre Paul témoigne quand il est monté à Jérusalem, donc après sa conversion, il ne vit aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Pas le cousin, le frère du Seigneur. Or, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui semble être donc l'auteur de cette lettre adressée aux chrétiens de l'Église dispersée dans l'Empire romain. Il s'est manifestement converti au Seigneur après que Jésus se soit montré, donc après sa résurrection. Et il y a ce texte où l'apôtre Paul dit clairement qu'il est apparu aussi à Jacques, puis à tous les apôtres. Il a cru bon mentionner Jacques. Il est apparu aussi à Jacques. Pourquoi il mentionne, il est donc dit qu'il est apparu à Jacques, peut-être parce que l'apôtre Paul savait ce qui s'était passé avant de la résurrection. Jacques est donc devenu l'une des colonnes de l'église à Jérusalem. Et lorsque l'apôtre Paul s'est rendu pour la dernière fois à Jérusalem, il est allé saluer le leader de l'église de Jérusalem. Jacques est mentionné encore dans ce texte. La tradition nous dit que Jacques est mort en tant que martyr. Et il y a plusieurs versions sur son corps, mais apparemment il est mort en tant que martyr chrétien. Maintenant, si on revient à sa manière de se présenter à ces chrétiens dispersés, ces chrétiens d'origine juive dispersée, je pense que sa manière de se présenter en dit long sur sa personnalité. On peut apprendre beaucoup de choses simplement sur la manière de la personne se présenter, je dirais, sa façon de se présenter. Jacques se présente en disant tout simplement « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Alors, on pourrait penser qu'il s'agit, peut-être à l'époque, d'un titre, comme je dis, quand on dit « serviteur de Jésus-Christ », c'est peut-être plus un titre que d'autre chose, le pasteur ou révérend pasteur, comme certains lettres de la part de l'Église, je ne sais pas quoi encore, hein. Un titre donné à quelqu'un qui avait des responsabilités, voilà, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr, c'est que cette traduction, peut-être, ne nous dit pas tout. Vous savez que le texte a été écrit en grec, et il y a le mot diakonos, serviteur, et il y a le mot doulos, qui souvent est traduit serviteur, mais qui signifie à la base esclave. Esclave. Un doulos était un esclave, un serviteur qui était aux ordres de son maître et qui était là uniquement pour servir. On rappelle qu'il y a déjà pas mal d'années, le pasteur André Tovois, je ne sais pas si c'est un nom connu. Un jour, il me disait, on parlait du ministère pastoral, et il nous disait, mais Samuel, nous ne sommes que les chiens du berger. Nous, les pasteurs, nous ne sommes que les chiens du berger. Il nous disait avec humour, hein. Et je m'appelle de l'avoir entendu aussi une fois dire, je suis le domestique du Seigneur. On est très loin là de ces formules, là, et un pasteur, et je ne sais pas quoi encore, n'est-ce pas? Jacques Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas frappant de voir un homme comme Jacques, ayant l'autorité spirituelle qu'il avait au sein de l'Église, la grande Église de Jérusalem, se présenter de cette manière-là? Alors qu'on sait qu'à l'époque de l'Empire romain, un esclave était considéré comme une chose, comme un objet, considéré comme quelqu'un qui avait perdu tous ses droits. Il appartenait à quelqu'un, et ce quelqu'un, ce maître, ce seigneur, pouvait disposer de son esclave comme il voulait, et quand il voulait. Jacques, esclave. Peut-être que l'histoire suivante peut nous aider à comprendre ce qu'il veut dire par là. Pourquoi Jacques se présente? Il n'est pas le seul, l'apôtre Paul le faisait aussi. On raconte qu'un jour, à l'époque de l'esclavage, il y a eu un incident survenu sur le marché des esclaves en Angleterre. On fit monter un jeune homme tout maigre sur une estrade qu'on avait installée donc pour exposer les personnes à vendre, les esclaves. Et alors que les enchères avaient commencé, il y avait parmi les acheteurs intéressés en anglais qui surenchérissaient la mise à chaque fois que quelqu'un proposait un prix. Finalement, au bout d'un certain temps, personne ne proposa d'autre prix. Et cet homme a pu acheter donc cet esclave. Le jeune esclave, vous l'imaginez, était très en colère. Très en colère envers son nouveau maître. D'autant plus qu'il savait, et qu'il était au courant, que l'esclavage venait d'être aboli. Pas en Angleterre. Alors le nouveau maître se tourna vers lui et lui dit ceci. Mon fils, je ne t'ai pas acheté pour faire de toi mon esclave. Mon fils, je ne t'ai pas acheté pour faire de toi mon esclave. Je t'ai acheté pour que tu sois libre. Je t'ai acheté pour que tu sois libre. Le jeune homme ne pouvant contenir son émotion, il a tout simplement ceci. Monsieur, permettez-moi d'être votre esclave pour toujours. Il en était de même pour Jacques. Jacques connaissait le prix que Jésus a payé pour que nous sauver. Il le savait. Il savait que Jésus est allé à la croix pour sauver l'humanité perdue. Et il a pris la décision, donc après sa résurrection, d'être serviteur, esclave de ce Jésus. Il avait lié en main. Et il a décidé de consacrer sa vie au service de ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Un esclave, donc, par choix. Jacques avait compris qu'il avait été racheté à un bon prix, disent les textes, et pas par le Christ. Et qu'il lui appartenait dorénavant, qu'il devait vivre désormais pour lui. Nous servons bien de lui sans quelque chose, sans convention. Voilà pourquoi il se présente en disant Jacques, tu dois te dire pour le Seigneur Jésus-Christ. En disant ce petit verset, je me suis posé la question, et nous, avons-nous compris que Jésus-Christ nous a choisis et qu'il nous a achetés à un grand prix? Qu'il est allé nous racheter sur le marché de l'esclavage, de ce monde. La Bible nous dit que nous sommes des esclaves du monde du péché. Et que la véritable question que nous devions nous poser n'est pas qui suis-je, mais plutôt de qui suis-je, de qui suis-je, à qui j'appartiens, et qui détermine ce que je suis. Qui appartenait au Seigneur. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, de même quand vous avez livré vos mains comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos mains comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché de lui, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est pas un passage en Corinthiens. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et après, il dit des choses pratiques. Prier l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui s'unit à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons une propre conscience de cela pour nous qui avons accepté le Christ comme nous. Notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, dans ce cas-là, attendons-nous, n'est-ce pas, pour nous mettre tout entier à son service, au service de son œuvre. Charles Scud a dit ceci une fois: si je savais que Jésus était mort pour moi, je savais que Jésus était mort pour moi, mais je n'avais jamais compris que s'il était mort pour moi, alors je ne m'appartenais plus. Lorsque j'ai compris le sens de ces paroles, alors il m'a plus semblé difficile, si difficile de tout abandonner pour lui. Jacques appelle Jésus-Christ son Seigneur et son Maître. Est-il lui aussi le maître de ma vie, le maître de ta vie? C'est-à-dire de notre corps, de notre temps, de nos biens, de notre argent, bref, de tout ce qui va vivre entre nos mains. De qui suis-je? Qui suis-je ou de qui suis-je? Plutôt de qui suis-je? De qui suis-je? Suis-je à lui, moi aussi? Peut-il compter sur mon obéissance, sur ma loyauté, sur mon humilité dans le service, humilité absolue? Si oui, alors remettons-nous à lui pour conduire toutes choses. Notre prière ce matin pourrait être celle-ci, de ce chant qui apparemment n'est pas connu de notre équipe: tout à toi, que ma vie soit tout à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Amen.